Monsieur de Bonfond, pour la seconde fois depuis 3 ans, Grandet nommé Cruchot neveu monsieur de Bonfond. Le président put se croire choisi pour gendre par l'artificieux bonhomme. Vous disiez donc que les faillites peuvent dans certains cas être empêchées par les tribunaux de commerce eux-mêmes. Cela se voit tous les jours, dit monsieur C. de Bonfond, enfourchant l'idée du père Grandet ou croyant la deviner et voulant affectueusement la lui expliquer. Écoutez, quand un homme considérable est considéré comme l'était par exemple défunt monsieur votre frère à Paris, est menacé d'une déconfiture, oui, que sa faillite devient imminente, le tribunal de commerce dont il est justiciable, suivez bien, a la faculté par un jugement de nommer à sa maison de commerce des liquidateurs. Liquider n'est pas faire faillite, comprenez-vous? En faisant faillite, un homme est déshonoré, mais en liquidant, il reste honnête homme. C'est bien différent si ça ne coûte pas plus cher, dit Grandet. Mais une liquidation peut encore se faire, même sans le secours du tribunal de commerce. Car, dit le président en humant sa prise de tabac, comment se déclare une faillite? Premièrement, reprit le magistrat par le dépôt du bilan au greffe du tribunal. Deuxièmement, à la requête des créanciers. Or, si le négociant ne dépose pas de bilan, si aucun créancier ne requiert du tribunal un jugement qui déclare le susdit négociant en faillite, qu'arrivera-t-il? Oui, voyons. Alors, la famille du décédé, ses représentants, son wari, ou le négociant, s'il n'est pas mort, ou ses amis, s'il est caché, liquide. Peut-être voulez-vous liquider les affaires de votre frère? Demanda le président. Ah, Grandet, s'écria le notaire, ce serait bien, il y a de l'honneur au fond dans nos provinces. Si vous sauviez votre nom, car c'est votre nom, vous seriez un homme sublime, dit le président en interrompant son oncle. Certainement, répliqua le vieux vigneron. Mon frère se nommait Grandet tout comme moi. Mais faut voir, je ne connais pas les malins de Paris. Je suis à Sceaux au mur, moi, voyez-vous. J'ai entendu dire qu'on pouvait racheter les billes. Oui, dit le président. L'on peut acquérir les billets sur la place moyennant tant pour cent. Comprenez-vous? Grandet se fit un cornet de sa main, l'appliqua sur son oreille et le président lui répéta sa phrase. J'ai des affaires majeures à Froidfond et des intéressantes. Je ne puis pas abandonner ma maison pour des embrouillages. Tous les diables où je ne comprends rien. Vous dites que je devrais, pour liquider, pour arrêter la déclaration de faillite, être à Paris. On ne peut pas se trouver à la fois en deux endroits, à moins d'être petit oiseau. Et je vous entends, s'écria le notaire. Eh bien, mon vieil ami, vous avez des amis, de vieux amis, capables de dévouement pour vous. Minute, ici, reprit le bonhomme. Quoi, quelque chose comme ça? Monsieur Grandet de Saumur par-ci, monsieur Grandet des Saumur par-là. Il aime son frère, il aime son neveu. Grandet est un bon parent et il a de très bonnes intentions. Il a bien vendu sa récolte. Ne déclarez pas la faillite, assemblez-vous, nommez des liquidateurs. Alors Grandet verra. Vous aurez bien davantage en liquidant qu'en laissant les gens de justice y mettre le nez, hein? Pas vrai? Certainement, dit le président. Je suis d'avis, moi, qu'en quelques mois de temps, l'on pourra racheter les créances pour une somme de... et payer intégralement par arrangement. Ah, l'on mène les chiens bien loin en leur montrant un morceau de lard. Quand il n'y a pas eu de déclaration de faillite et que vous tenez les titres de créances, vous devenez blanc comme neige. Laissez-moi vous expliquer tout ceci, dit le président. En droit, si vous possédez les titres de toutes les créances dues par la maison Grandet, votre frère ou ses ouvriers ne doivent rien à personne. « Bien, répéta le bonhomme. En équité, si les effets de votre frère se négocient, entendez-vous bien ce terme? Sur la place à tant pour cent de pertes, si l'un de vos amis a passé par là, s'il les a rachetés, les créanciers n'ayant été contraints par aucune violence à les donner, la succession de feux Grandet de Paris se trouve loyalement quitte. Mais néanmoins, vous comprenez que si difficile, je n'ai pas d'argent, ni le temps, ni... Oui, vous ne pouvez pas vous déranger. Eh bien, je vous offre d'aller à Paris. Vous me tiendrez compte du voyage, c'est une misère. Je vois les créanciers, je leur parle, j'atermoie, et tout s'arrange avec un supplément de paiement que vous ajoutez aux valeurs de la liquidation afin de rentrer dans les titres de créances. Je suis un pauvre vigneron et ne sais rien de ce que vous venez de dire. Il faut que j'étudie ça. Un coup de marteau qui annonça l'arrivée de la famille des Grassins, leur entrée et leur salutation, empêchèrent Cruchot d'achever sa phrase. Le notaire fut content de cette interruption. Déjà Grandet le regardait de travers et sa loupe indiquait un orage intérieur. Mais d'abord, le prudent notaire ne trouvait pas convenable à un président de tribunal de première instance d'aller à Paris pour y faire capituler des créances et y prêter les mains à un tripotage qui froissait les lois de la stricte probité. Puis, n'ayant pas encore entendu le père Grandet exprimant la moindre velléité de payer quoi que ce fût, il tremblait instinctivement de voir son neveu engagé dans cette affaire. Il profita donc du moment où les des Grassins entraient pour prendre le président par le bras et l'attirer dans l'embrasure de la fenêtre. « Tu t'es bien suffisamment montré, mon neveu, mais assez de dévouement comme ça. L'envie d'avoir la fille t'aveugle. Diable ! Il ne faut pas aller comme une corneille qui abat des noix. Laisse-moi maintenant conduire la barque, aide seulement à la manœuvre. Est-ce bien ton rôle de compromettre ta dignité de magistrat dans une pareille ?» Il n'acheva pas. Il entendait Monsieur des Grassins disant au vieux tonnelier en lui tendant la main « Grandet, nous avons appris l'affreux malheur arrivé dans votre famille. Le désastre de la maison Guillaume Grandet et la mort de votre frère. Nous venons vous exprimer toute la part que nous prenons à ce triste événement. » « Il n'y a d'autre malheur, dit le notaire en interrompant le banquier, que la mort de Monsieur Grandet Junior. Encore ne se serait-il pas tué s'il avait eu l'idée d'appeler son frère à son secours. Notre vieil ami, qui a de l'honneur jusqu'au bout des ongles, compte liquider les dettes de la maison Grandet de Paris. Mon neveu, le président, pour lui éviter les tracas d'une affaire toute judiciaire, lui offre de partir sur le champ pour Paris afin de transiger avec les créanciers et les satisfaire convenablement. » Ces paroles, confirmées par l'attitude du vigneron qui se caressait le menton, surprirent étrangement les trois des Grassins, qui, pendant le chemin, avaient médit tout à loisir de l'avarice de Grandet en l'accusant presque d'un fratricide. « Ah, je le savais bien !» s'écria le banquier en regardant sa femme. « Que te disais-je en route, Madame des Grassins ? Grandet a de l'honneur jusqu'au bout des cheveux et ne souffrira pas que son nom reçoive la plus légère atteinte. L'argent sans l'honneur est une maladie. Il y a de l'honneur dans nos provinces. Cela est bien, très bien, Grandet. Je suis un vieux militaire, je ne sais pas déguiser ma pensée, je la dis rudement. Cela est mille tonnerres, sublime. » « Alors, le sublime y vit bien cher ?» répondit le bonhomme pendant que le banquier lui secouait chaleureusement la main. « Mais ceci, mon brave Grandet, n'en déplaise à Monsieur le Président, reprit des Grassins, est une affaire purement commerciale et veut un négociant consommé. Ne faut-il pas se connaître au compte de retour, débours, calcul d'intérêt ? Je dois aller à Paris pour mes affaires et je pourrai alors me charger de... « Nous verrions donc à tâcher de nous arranger tous deux. Parce que, voyez-vous, Monsieur le Président me demandait naturellement les frais du voyage. » Le bonhomme ne bredouilla plus ces derniers mots. « Eh ! Mais c'est un plaisir que d'être à Paris. Je paierai volontiers pour y aller, moi. » Elle fit un signe à son mari comme pour l'encourager à souffler cette commission à leur adversaire coûte que coûte. Puis elle regarda fort ironiquement les deux Cruchot qui prirent une mine piteuse. Grandet saisit alors le banquier par un des boutons de son habit et l'attira dans un coin. « J'aurais bien plus de confiance en vous que dans le président, » lui dit-il. « Puis il y a des anguilles sous roche, » ajouta-t-il en remuant sa loupe. « Je veux me mettre dans la rente. J'ai quelques milliers de francs de rente à faire acheter et je ne veux placer qu'à 80 francs. » « Cette mécanique baisse, » dit-on, « à la fin des mois. » Vous vous connaissez à ça, pas vrai ? Pardieu ! Eh bien, j'aurai donc quelques 1000 livres de rente à lever pour vous ? Vous me concluriez un marché pour la fin du mois, mais n'en dites rien aux Cruchot. Ça les taquinerait. Puisque vous allez à Paris, nous y verrons en même temps, pour mon pauvre neveu, de quelle couleur sont les atouts. Voilà qui est entendu. Je partirai demain en poste, dit à haute voix des Grassins. Et je viendrai prendre vos dernières instructions. À quelle heure ? À 5 heures, avant le dîner, dit le vigneron en se frottant les mains. Les deux parties restèrent encore quelques instants en présence. Des Grassins dit après une pause en frappant sur l'épaule de Grandet « Il fait bon avoir de bons parents comme ça. » « Oui, oui, sans que ça paraisse, » répondit Grandet. « Je suis un bon parent. J'aimais mon frère et je le prouverai bien, si ça ne coûte pas. » Les chefs des deux familles rivales s'en allèrent ensemble. Ni les uns ni les autres ne songeaient plus à la trahison dont s'était rendu coupable Grandet le matin envers le pays vignoble, et se sondèrent mutuellement, mais en vain, pour connaître ce qu'ils pensaient sur les intentions réelles du bonhomme en cette nouvelle affaire. En quelques instants, la nouvelle de la magnanime résolution de Grandet se répandit dans 3 maisons à la fois, et il ne fut plus question dans toute la ville que de ce dévouement fraternel. Chacun pardonnait à Grandet sa vente faite au mépris de la foi jurée entre les propriétaires, en admirant son honneur, en vantant une générosité dont on ne le croyait pas capable. Eugénie, préoccupée de son cousin, crut avoir entendu la plainte d'un mourant, et pour elle, ce mourant était Charles. Elle l'avait quitté si pâle, si désespéré, peut-être s'était-il tué. Soudain, elle s'enveloppa d'une coiffe, espèce de pelisse à capuchon, et voulut sortir. D'abord, une vive lumière qui passait par les fentes de sa porte lui donna peur du feu. Puis elle se rassura bientôt en entendant les pas pesants de Nanon et sa voix mêlée au hennissement de plusieurs chevaux. « Mon père enlèverait-il mon cousin ?» se dit-elle en entr'ouvrant sa porte avec assez de précaution pour l'empêcher de crier, mais de manière à voir ce qui se passait dans le corridor. Tout à coup, son œil rencontra celui de son père, dont le regard, quelque vague et insouciant qu'il fût, la glaça de terreur. Le bonhomme et Nanon étaient accouplés par un gros gourdin dont chaque bout reposait sur les épaules droites et soutenait un câble auquel était attaché un barillet semblable à ce que le père Grandet s'amusait à faire dans son fournil à ses moments perdus.
« Sainte Vierge, monsieur, ça pèse-t-il ? »
dit à voix basse la Nanon. « Quel malheur que ce ne soit que des gros sous !» répondit le bonhomme.
« Prends garde de heurter le chandelier !»«
Nanon, tu diras à ma femme que je suis allée à la campagne. Je serai revenue pour dîner. »«
Va bon train, Cornoyer, faut être à Angers avant 9 heures. »
La voiture partit. Nanon verrouilla la grande porte, lâcha le chien, se coucha l'épaule meurtrie et personne dans le quartier ne soupçonna ni le départ de Grandet, ni l'objet de son voyage. La discrétion du bonhomme était complète. Personne ne voyait jamais un sou dans cette maison pleine d'or.